Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire la nécessité de la transformation spirituelle du chapitre 22 du cycle humain de Sri Aurobindo. Quand nous parlons du surhomme, nous entendons évidemment une chose si anormale ou si supranormale pour notre nature actuelle, que l'idée même en est difficilement, facilement alarmante, voire révoltante pour notre humanité normale. L'être humain normal ne désire pas être tiré de sa ronde mécanique perpétuelle pour gravir ce qui peut lui apparaître comme des sommets inaccessibles, et il aime encore moins la perspective d'être dépassé, laissé en arrière et dominé. Encore que l'objet d'une surhumanité véritable ne soit pas de dépasser ni de dominer comme une fin en soi, mais justement de révéler à notre humanité normale quelques principes qui la dépassent maintenant, et pourtant qui contient sa propre perfection prédestinée. Mais notons que ce que nous avons appelé l'humanité normale est quelque chose d'anormal dans la nature, quelque chose dont nous chercherions en vain l'équivalent autour de nous. C'est une variation rapide, un miracle soudain. L'anomalie dans la nature n'est pas un obstacle. Ce n'est pas nécessairement un signe d'imperfection. Ce peut être bien un effort vers une perfection plus grande. Mais cette perfection ne doit pas se découvrir aussi longtemps que l'anormal n'a pas solidement trouvé sa propre normalité et organisé correctement sa vie au sein de son espèce et de son pouvoir propre, et sur son propre plan. L'homme est un anormal qui n'a pas trouvé sa normalité. Il peut s'imaginer l'avoir trouvé, il peut paraître normal dans son espèce, mais cette normalité n'est qu'une sorte d'ordre provisoire. Et par suite, bien que l'homme soit infiniment supérieur à la plante ou à l'animal, il n'est pas parfait dans sa propre nature, comme le sont la plante et l'animal. Il ne faut aucunement déplorer cette imperfection, au contraire. C'est un privilège et une promesse, car elle ouvre devant nous une perspective immense de développement et de surpassement. À son sommet, l'homme est un demi-dieu surgi de la nature animale, où il est splendidement anormal. Mais l'être qu'il a commencé de devenir, le Dieu complet, est tellement plus grand que ce qu'il est. Que cette divinité lui semble aussi anormale qu'il est lui-même anormal pour l'animal. Ceci le met en face d'un labeur de croissance énorme et ardu, mais lui promet aussi le couronnement d'une victoire splendide pour son espèce. Un royaume lui est offert, près duquel ses triomphes actuels dans le domaine mental et sur la nature extérieure apparaîtront comme une grossière ébauche et un pauvre début. Quel est exactement le défaut, la source de toute imperfection humaine ? Nous l'avons déjà indiqué. En fait, c'est le but général des chapitres précédents. Mais il est nécessaire maintenant de l'énoncer d'une façon plus succincte et plus précise. À première vue, l'homme semble doté d'une double nature, la nature animale de l'être vital et physique qui vit selon ses instincts, ses impulsions, ses désirs et qui suit une orientation et une méthode automatique. Et en même temps, la nature semi-divine de l'être intellectuel, éthique, esthétique, intelligemment émotif, intelligemment dynamique, conscient de lui-même, capable de découvrir et de comprendre la loi de sa propre action, de s'en servir et de l'améliorer consciemment, doté d'un mental réflectif qui comprend la nature et d'une volonté qui utilise, élève et perfectionne cette nature et d'une perfection qui en jouit intelligemment. Le but de la partie animale de notre être est d'accroître ses possessions vitales et sa jouissance vitale. Le but de la partie semi-divine en nous est aussi de croître, de posséder et de jouir, mais d'abord de posséder et de jouir intelligemment, esthétiquement, éthiquement, par les pouvoirs du mental plus que par les pouvoirs de la vie et du corps. Ensuite, de posséder et de jouir, non pas tant des choses vitales et physiques, sauf dans la mesure où c'est nécessaire comme fondement et point de départ, comme une nécessité et ou une condition préliminaire, une base, un point d'appui, mais surtout des choses intellectuelles, éthiques et esthétiques, et de croître, non pas tant dans la vie extérieure, sauf dans la mesure où c'est nécessaire à la sécurité, à l'aisance, à la dignité de notre existence humaine, mais dans le vrai, le bien et le beau. Telle est l'humanité véritable de l'homme, son unique distinction et sa seule anormalité dans la norme de cette nature matérielle inconsciente. Cela signifie que l'homme a fait apparaître un nouveau pouvoir d'être, que nous pouvons appeler un pouvoir nouveau d'âme, à condition de considérer la vie et le corps aussi comme des pouvoirs de l'âme. Et l'être qui a développé ce pouvoir est de ce fait obligé non seulement de regarder le monde de sa nouvelle hauteur et de tout réévaluer de ce point de vue nouveau, mais de contraindre sa nature entière à obéir à ce pouvoir de l'âme. Et, en un sens, à se refaçonner dans son moule, voire à remodeler autant qu'il peut la vie qui l'entoure à l'image de cette vérité et de cette loi plus haute. C'est en cela que réside son Svadharma, sa vraie loi et sa vraie manière d'être. La voie de sa perfection et de son bonheur réel. S'il échoue, il manque le but de sa nature et de son être. Il doit recommencer jusqu'à ce qu'il trouve le vrai chemin et arrive à un tournant favorable, à une crise cette transformation décisive. Or, c'est justement ce que l'homme n'a pas su faire. Il a accompli quelque chose, il a franchi une étape dans son voyage. Il a, jusqu'à un certain point, mis le joug d'une règle intellectuelle, éthique et esthétique sur les parties vitales et physiques de son existence et fait en sorte qu'il soit impossible d'être ou de se concentrer d'être le pur animal humain. Mais il n'a pas été capable de faire davantage. La transformation de sa vie, à l'image du vrai, du bien et du beau, semble aussi lointaine que jamais. Si l'on approche parfois, sous quelques formes imparfaites, et même alors cela ne concerne qu'une classe ou un petit nombre d'individus avec une action réflexe sur la vie de la masse, il retombe bientôt en arrière dans une déchéance générale de la vie, à moins qu'il ne se précipite dans quelques bouleversements déroutants pour en sortir avec de nouveaux gains, sans doute, mais non sans de sérieuses pertes. Il n'est jamais arrivé au grand tournant, jamais à la crise décisive de sa transformation. L'échec principal, en fait, la source même de tout cet échec vient de ce que l'homme n'a pas été capable de déplacer vers le haut, ce que nous avons appelé la volonté implicite au centre de sa vie. La force et la foi, solidement établies inhérentes à son principal pouvoir d'action. La volonté centrale de sa vie se situe encore dans son être vital et physique, et elle reste naturellement portée aux jouissances vitales et physiques, des jouissances éclairées, certes, et dont les impulsions sont réfrénées jusqu'à un certain point par les pouvoirs supérieurs, mais éclairés très partiellement et non transformés, réfrénés mais non dominés ni soulevés à un plan supérieur. La vie supérieure est encore seulement superposée à l'inférieur, comme une sorte d'intruse permanente dans notre existence habituelle. L'intruse intervient constamment dans la vie normale. Elle gronde, encourage, décourage, sermonne, manipule, réajuste, mais ne soulève que pour laisser retomber. Elle n'a pas le pouvoir de transformer, pas le pouvoir de transmuer et de recréer. À vrai dire, elle semble ne pas très bien savoir elle-même vers quoi tend tout cet effort, cette lutte pénible. Parfois, elle croit que c'est vers une vie humaine, tout à fait tolérable, sur la terre, mais la morne de cette vie, elle n'arrive jamais à la fixer, et parfois elle imagine que le voyage la conduit à un autre monde, ou par sa vie religieuse, sinon par une mort édifiante. Elle échappera à tous les tracas et les tourments de l'être mortel. Ainsi, ces deux éléments, supérieurs et inférieurs, cohabitent-ils dans un mutuel et perpétuel embarras. Dans le malaise, la gêne, l'affaiblissement mutuel, un peu comme une femme et un mari mal assorti, toujours en désaccord et pourtant à moitié amoureux l'un de l'autre, ou du moins nécessaires l'un à l'autre, incapables d'arriver à une harmonie et pourtant condamnés à être accouplés par une laisse de malheur jusqu'à ce que la mort les sépare. Tout le malaise, l'insatisfaction, la désillusion, la lassitude, la mélancolie, le pessimisme du mental humain viennent de la faillite de l'homme à résoudre pratiquement l'énigme et la difficulté de sa double nature. Nous avons dit que la faillite venait de ce que le pouvoir supérieur mental n'était qu'un médiateur et que de transformer complètement la vie vitale et physique à son image n'était peut-être pas possible, ou en tout cas n'était pas l'intention de la nature en nous. On pourrait peut-être arguer que certains individus ont malgré tout réussi à effectuer un semblant de transformation, qu'ils ont vécu une vie entièrement éthique, artistique ou intellectuelle, qu'ils ont même façonné leur vie selon un certain idéal du vrai, du bien, du beau. Or, ce que l'individu a accompli, l'espèce le peut aussi et doit finalement réussir à l'accomplir. Car l'individu exceptionnel est le type futur, le précurseur. Mais en quoi consiste réellement leur succès ? Ou bien ils sont appauvris, la vie vitale et physique en eux, afin de donner libre essor à un seul élément de leur être, et ils ont vécu un seul aspect de l'existence, une vie limitée, ou bien ils sont arrivés à un compromis qui donnait certes à la vie supérieure une grande prépondérance, mais laisser la vie inférieure paraître dans son propre champ sous l'œil plus ou moins sévère ou la bride plus ou moins indulgente du ou des pouvoirs supérieurs, et la vie elle-même en ses instincts et ses exigences propres restait inchangée. Il y avait domination, mais non transformation. La vie ne peut pas être entièrement rationnelle. Elle ne peut pas se conformer entièrement à la mentalité éthique, ni esthétique, ni scientifique, ni philosophique. Le mental n'est pas l'archange prédestiné de la transformation. Toute preuve apparente du contraire est toujours un trompe-l'œil, une illusion intellectuelle, esthétique ou éthique. On peut dominer la vie peut-être ou la refouler, mais elle réserve ses droits. Et même si certains individus ou une classe parviennent à établir cette domination pendant un temps et en imposer le simulacre à la société, la vie finit par circonvenir l'intelligence. Et comme il existe toujours des parties traîtresses, elle y trouve des éléments forts qui passent de son côté et l'aide à rétablir ses instincts et à reprendre possession de son domaine. Ou si elle n'y réussit pas, elle se venge par sa propre déchéance qui entraîne la déchéance de la société et déçoit l'espoir éternel. Cela est si vrai qu'à certaines époques, l'humanité, constatant ce fait et renonçant à vouloir dominer l'instinct vital, se décide à mettre l'intelligence au service de cet instinct et à lui donner de la lumière sur son propre terrain, au lieu de la servir à un idéal plus élevé, mais chimérique. L'âge matérialiste récent a été une période de ce genre. L'intellect de l'homme semblait décidé à étudier à fond la vie et la matière et n'admettre que cela, à ne voir dans le mental qu'un instrument de la vie et de la matière, et à consacrer toutes ses connaissances à une expansion formidable de la vie physique, vitale, à sa commodité, son efficacité, son confort et une splendide organisation de ses instincts de production, de possession et de jouissance. Tel était le caractère matérialiste, commercial et économique de l'humanité. Un âge où l'esprit éthique a péniblement survécu en doutant de plus en plus de lui-même, de sa valeur et en ayant tendance à faire capituler la forteresse de la loi morale devant l'instinct vital. Un âge où le sens esthétique et l'intelligence fleurissaient comme un ornement exotique, plus voyant, une sorte d'orchidée rare à la boutonnière de l'homme vital, tandis que la raison devenait la magnifique servante de la vie et de la matière. Le développement titanesque de la vie vitale qui s'ensuit est en train de finir, comme finissent toujours les titans. Il a mis le feu à son propre bûcher funéraire. Dans l'énorme incendie d'une guerre mondiale, son dénouement naturel est dans une lutte où les nations les plus efficaces et les plus civilisées se disputaient la possession et la jouissance du monde, ses richesses, ses marchés, ses espaces libres. Une expansion commerciale démesurée, pléthorique, et une grandeur aux dimensions d'un pouvoir impérial. Tel était le grand sens de la Grande Guerre et son origine réelle, car telle était l'intention déclarée ou secrète de toute la diplomatie et de la politique international d'avant-guerre, et si quelque conception plus noble s'est éveillée, du moins pour un bref moment, ce fut sous le seul fouet de la mort et devant le spectre très terrifiant d'une destruction mutuelle gigantesque. Mais alors, même alors, cette prise de conscience n'était en aucune façon complète, ni partout absolument sincère. Mais elle était présente et faisait effort pour se manifester. Même en Allemagne, qui pourtant était le grand protagoniste de la philosophie vitaliste de la vie. Cet éveil porte l'espoir des choses meilleures, mais pour le moment tout au moins, La tendance vitaliste a une fois de plus redressé la tête sous une forme nouvelle et l'espoir s'est effacé dans une obscurité et une confusion où seul l'œil de la foi peut voir un nouveau cosmos qui se prépare sous le chaos. Le premier résultat de cet éveil imparfait semblait vouloir être un retour à un idéal plus ancien et une volonté de servir mieux et plus largement la raison et l'éthique afin d'organiser une vie individuelle, nationale et internationale. Mais pareille tentative, si bonne soit-elle pour un début, ne peut pas être la solution réelle ni finale. Si notre effort s'arrête là, nous n'arriverons pas au but. Il faut donc se remettre à la poursuite d'un secret ancien que l'homme, en tant qu'espèce, n'a entrevu qu'obscurément et maladroitement recherché. Qu'il a compris, certes, mais seulement avec son mental de surface et non dans sa signification profonde. Et pourtant, c'est en cherchant ce secret qu'il trouvera non seulement son salut individuel, mais son salut social. L'idéal du royaume de Dieu. Le secret du règne de l'esprit sur le mental, sur la vie et sur le corps. Et parce que les nations asiatiques plus vieilles n'ont jamais complètement perdu de vue ce secret. Parce qu'elles ne l'ont jamais renié dans le désir impatient d'une victoire inférieure, elles ont survécu avec une persistance inlassable. Et elles peuvent maintenant, comme si elles étaient immortelles, lever leur regard vers l'aurore nouvelle. Elles se sont endormies, mais elles n'ont pas péri. Il est vrai qu'elles ont échoué dans la vie pendant un temps, alors que réussissaient les nations d'Europe qui avaient foi en la chair et l'intellect. Mais ce succès qui peut donner l'illusion passagère d'être parfait a toujours tourné à la catastrophe. L'Asie n'en a pas moins échoué dans la vie. Elle est tombée dans la poussière et même si la poussière où elle gisait est sacrée, comme l'a déclaré le poète moderne de l'Asie, Rabindranath Tagore, et encore peut-on douter de ce caractère secret, la poussière n'est cependant point une place convenable pour l'homme et y rester prostré n'est pas non plus l'attitude humaine la plus adéquate. Mais si l'Asie a échoué momentanément, ce n'est pas parce qu'elle poursuivait un but spirituel, mais certains le disent pour se consoler, comme si vraiment l'esprit pouvait être une faible chose ou une cause de faiblesse, mais au contraire, parce qu'elle n'est pas allée assez loin dans sa quête de l'esprit et qu'elle n'a pas appris à en faire le maître total de sa vie. Son mental a créé un gouffre de division entre la vie et l'esprit, où il s'est reposé sur un compromis entre les deux et a accepté comme définitif des systèmes sociaux ou religieux fondés sur ce compromis. Ce genre de repos est périlleux, car plus que tout autre, l'appel de l'esprit exige qu'on le suive jusqu'au bout. Et le bout n'est ni un divorce, ni une fuite, ni un compromis, ni une conquête, de tout par l'esprit. Selon le symbolisme religieux, c'est ce règne des chercheurs de perfection que le dernier avatar vient établir. Alors Sri Aurobindo met un Nota Bene sur l'avatar. L'avatar est l'incarnation du divin sous une forme humaine. Sri Aurobindo souligne dans ses œuvres que le divin se manifeste périodiquement parmi les hommes, apportant chaque fois un nouveau pouvoir de conscience sur la terre. En effet, selon Sri Aurobindo, le divin s'exprime progressivement dans le monde et le sens de la destinée humaine est lente, une lente évolution spirituelle depuis l'inconscience apparente de la matière jusqu'à une humanité supramentale ou divine, prochain stade de l'évolution. À chaque étape décisive de l'évolution humaine, l'avatar vient ouvrir le chemin d'une nouvelle région de conscience. Sri Aurobindo range le Bouddha notamment, le Christ et Ramakrishna parmi les grands avatars. Alors aujourd'hui, je termine la lecture de la nécessité de la transformation spirituelle du cycle humain de Sri Aurobindo. Je me permets de vous dire cette nécessité de la transformation spirituelle dans Auroville. Je remercie infiniment Sri Aurobindo et Douce Mère d'être l'avatar de cette nouvelle conscience qui est descendue sur la terre pour nous soulever au-delà de toutes nos difficultés infra-humaines. Merci Sri Aurobindo, merci Douce Mère.